Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle chronique d'Analyse F1. Aujourd'hui, on va parler de Red Bull un peu en mal. Aujourd'hui, c'est le podcast un peu défouloir pour moi, vous voyez. Mais j'aimerais ne pas avoir à le faire, évidemment. Puisque vraiment, vraiment, c'est assez triste finalement ce qui se passe avec Red Bull en ce moment. Ça frise même le ridicule, comme vous allez pouvoir le voir. Bref, mes attaques vont être dirigées contre, plus précisément, les dirigeants de Red Bull, pas Red Bull totalement dans son ensemble, mais quand je vais parler de Red Bull, je parle évidemment des dirigeants qui sont la voix de la marque autrichienne, de la marque de boisson. Et donc, ces dirigeants sont plus particulièrement Dietrich Mateschitz, donc un des grands dirigeants de la boisson, de la grande marque Red Bull, et Helmut Marko, qui est plus, on va dire, dans la Formule 1 en elle-même, puisqu'il est il gère la filière jeune Red Bull, et à la fois, je crois qu'il gère pas mal de choses chez Red Bull. En tout cas, il a son mot à dire, ça c'est clair, il a beaucoup son mot à dire concernant l'avenir de Red Bull en Formule 1. Donc, ces deux personnalités, je vais critiquer leur attitude vraiment exécrable, hautaine, envers les motoristes et envers le sport en général. Et là, ça m'a vraiment énervé. Mais avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet de ce qui se passe en ce moment, il faut revenir sur ce qui se passe avec Renault, puisque vous le savez, Red Bull va abandonner Renault, alors même que le contrat, il me semble que le contrat stipule qu'il y avait une fourniture moteur de Renault envers Red Bull jusqu'en 2017, enfin, saison 2016 comprise. Donc voilà, Red Bull va abandonner Renault et cherche donc un nouveau motoriste. Ce nouveau motoriste pourrait être Ferrari, d'après les dernières informations, mais ce n'est pas sûr, hein. Ça pourrait être tout simplement Ferrari ou rien. Tout d'abord, Renault. Revenons sur les relations entre Red Bull et Renault. Tout d'abord, après une campagne 2014 qui a quand même été très bien pour Red Bull, hein, très très bien, hein, je vous le rappelle, malgré une unité de puissance, c'est vrai, bien en deçà des autres, hein, on parlait de Renault vraiment négativement la saison dernière, mais rappelez-vous du podcast qui faisait le bilan de la saison 2014, où j'avais souligné d'ailleurs la très bonne Red Bull, et dans un autre podcast, il me semble, avant, un des premiers podcasts que j'ai dû faire, où je soulignais vraiment le savoir-faire chez Red Bull, et c'est vrai, ils ont un vrai savoir-faire pour faire des très bons châssis, depuis maintenant quelques saisons, depuis 2009 exactement. Donc ça fait quand même un bon moment. Donc, malgré cette très bonne saison, ils n'ont pas pu lutter vraiment pour le titre, hein. Ils ont pu emmagasiner 3 victoires quand même, hein. C'était les seuls à prendre des victoires au Mercedes en 2014, et grâce à Daniel Ricciardo également. Et donc, malgré cela, ils n'étaient pas contents de ne pas lutter pour le titre. Évidemment, ils restaient sur 4 titres consécutifs, on ne peut pas leur en vouloir pour ça, de vouloir mieux. Donc ils voulaient une unité de puissance meilleure pour pouvoir lutter avec Mercedes. Jusque-là, rien de bien choquant. Seulement en 2015, ça a été pire, c'est-à-dire que le déficit engendré par Renault était bien pire, parce que certes Renault a cherché à s'améliorer, mais à côté de ça, avec la pression qu'a mis Red Bull, a peut-être cherché à s'améliorer trop vite en début de saison, et du coup il y avait des gros problèmes de fiabilité, et il y en a encore aujourd'hui. Et du coup, Red Bull a vraiment pas été content du tout, et pas été content du tout, ils s'attendaient à mieux, même les pilotes en début de saison, surtout Daniel Ricciardo, pensaient que c'était la bonne saison peut-être pour lutter pour le titre, après avoir lutté pour des victoires, ça n'a pas été du tout le cas du coup, et Red Bull a haussé le ton de manière très virulente, de manière très critiquable également, et les relations avec Renault ont été gravement entachées. Alors que Red Bull aurait pu faire le dos rond, aurait pu faire vraiment le dos rond, c'est-à-dire se dire, c'est pas bien cette année, notre unité de puissance est pas ce qu'elle devrait être, Donc évidemment, il faut quand même mettre de la pression à Renault d'une façon ou d'une autre pour qu'il s'améliore, parce que c'est vrai que ils n'ont pas fait le boulot cette année comme il faudrait. Après, c'est vrai que la réglementation technique de la Formule 1 ne permet pas un développement, on va dire, acharné. Il faut vraiment que le développement soit précis et efficace. Mais ça aussi, c'est quand même très important pour un motoriste de pouvoir avoir ses qualités. C'est quand même à noter, hein, de la part de Mercedes. Et d'un autre côté, voilà, de l'autre côté de la concurrence, eh bien Mercedes s'est améliorée, mais vraiment de façon exponentielle. Ferrari également petit à petit, et s'est bien améliorée, quasi à hauteur de Mercedes, voire à hauteur de Mercedes. Bon, et Honda, on n'en parle pas, c'est un autre débat, n'en parlons pas aujourd'hui. Donc voilà, à côté de ça, il y avait ça. Du coup, Red Bull, leur réaction a été de traîner dans la boue littéralement Renault, qui, je le rappelle, Renault est un partenaire de Red Bull depuis 2007, et avec qui ils ont glané 4 titres constructeurs et pilotes, avec Sébastien Vettel. Donc voilà, c'est pas un petit partenaire, c'est quand même un partenaire privilégié de Red Bull ces dernières saisons, on peut le dire. Ils ont même déclaré, il y a peu de temps, donc après la mi-saison environ, je crois, c'était un peu après la mi-saison. Enfin bref, c'était récemment, que même pendant les années victorieuses, Red Bull s'est senti à cette époque-là et maintenant comme une écurie cliente. Donc là, c'est une véritable insulte envers Renault, parce qu'il considère que Renault les a traités comme si c'était comme les autres écuries qu'ils ont motorisées, comme Lotus à l'époque, comme Toro Rosso, comme toutes les écuries qui ont pu être motorisées par Renault, par Caterham également. Oui, allons jusque-là, allons jusque-là. Mais voilà, Renault cette année prouve un peu le contraire, hein, que prouve un peu le contraire. Pourquoi? Parce que Renault travaille cette année de façon quand même très étroite avec Red Bull, avec en relation vraiment très proche. Et ça a été poussé évidemment par le coup de pression de Red Bull. Donc Renault a répondu présent, a répondu à quand même. Bon, n'a pas été du tout content, hein. Cyril Abitbol était vraiment pas du tout content des déclarations de Red Bull et a renvoyé également la balle chez Red Bull et a eu raison de faire ça quelque part, mais il faut vraiment admettre, c'est vrai que Renault n'a pas été efficace et ils ont essayé un peu de nous embrouiller aussi Renault en disant bon, ça va s'améliorer d'ici telle course machin. Il devait y avoir un nouveau moteur à Singapour, ça a été relégué quelques courses plus loin. Ça, c'était une autre défaite de Renault cette saison, hein. Il faut bien le signaler. Il faut aussi signaler, hein, ce qui s'est mal passé du côté de Renault. Voilà, donc bref, j'étais sur le point suivant, à savoir que Renault, cette année, travaille de façon très proche avec Red Bull suite aux pressions. C'est-à-dire qu'il y a des gens de Red Bull, je crois, qui sont même au sein de Viry-Châtillon pour aider les ingénieurs de Renault. Bref, il y a vraiment une relation très étroite de travail. Et ça, c'est pas une relation très étroite de travail qu'on a avec une simple écurie cliente, hein. C'est vraiment des clients privilégiés, hein, Red Bull. C'est vraiment, c'est limite l'écurie principale. C'est l'écurie principale pour Renault. Mais bon, après ce qu'a dit Red Bull, évidemment, les relations se sont tendues, ont changé. Et évidemment, Renault a revu sa position, que ce soit envers Red Bull et également sur la Formule 1, tout simplement, puisque Renault souhaiterait vraiment devenir un constructeur, afin de vraiment avoir plus de profit en Formule 1. J'y reviendrai dans un podcast, hein, d'ailleurs, sur ça, si jamais Renault se décide. Voilà, donc Red Bull a fait un début de saison avec un châssis mauvais, il faut le dire aussi. Je dis que Renault a été mauvais. Il faut aussi dire que Red Bull a été mauvais. Ça, ils ont mis du temps à l'admettre, hein, Red Bull. Et ils l'ont pas crié sur tous les toits pendant longtemps, hein, ça c'est vrai. Ils l'ont dit pendant une semaine, après ils l'ont plus jamais rappelé. Mais Red Bull, ils ont fait un mauvais début de saison aussi à cause de leur châssis. Ils s'en sont rendu compte après 5 ou 6 courses où là, ils ont dit, ah ben oui, en fait, on s'était pas rendu compte, mais le système qui permet de faire les étincelles pour favoriser le spectacle, eh bien, sur notre monoplace, ça nous empêche de. Il est mal fait sur notre monoplace, on l'a mal fait, et du coup, ça nous coûte de la performance. Ah tiens, on va changer ça. Et du coup, ben, c'était vraiment quelque chose de très bête, hein, franchement, sur le châssis. Ils l'ont changé, donc maintenant ils ont un bon châssis, ils ont pu glaner un podium, donc ils ont un châssis quand même assez correct. Mais c'est vraiment l'alliance avec l'unité de puissance qui se fait pas très bien parce qu'il y a pas mal de soucis de fiabilité. La performance en ligne droite n'est pas vraiment au rendez-vous, hein, ça c'est vrai. Il y a un plus gros déficit par rapport à la saison dernière, mais ça c'est dû aussi à la concurrence qui s'est fortement améliorée. Et il faut savoir admettre, hein, la défaite, il faut savoir admettre quand un concurrent est plus fort. Et Renault sait l'admettre, Renault sait être, comment dire, cette année leur qualité c'est vraiment de savoir, de pouvoir se montrer patient et de dire bon, au lieu de vouloir montrer tout de suite nos évolutions et avoir des soucis de fiabilité, comme ils ont pu le faire par exemple en début de saison, on va peut-être envisager un délai afin de pouvoir être vraiment efficace le moment venu. Être sûr qu'il y ait de la performance et de la fiabilité. Voilà. Seulement, ils ont mis du temps. Et ça, c'est vraiment le gros problème de la part de Renault. Et Red Bull, ça les a un peu trop énervés. Ils ont pété un câble, hein, littéralement, hein, on peut le dire. Hein, c'est pas vraiment très professionnel en termes de relations, de partenariat assez privilégiés. Mais c'est vrai que Red Bull de ce côté-là n'est pas très diplomate, on va dire. Et voilà, c'est ça que je critique, c'est que Red Bull ne supporte pas de ne pas lutter pour le titre. Bon, ça certes, ils veulent aller plus loin, mais ils supportent vraiment pas à tel point qu'ils ne comprennent pas que dans un sport, on peut perdre. On peut perdre dans un sport, oui, c'est possible. On peut se retrouver deuxième, troisième, ne pas pouvoir lutter. On peut être à côté d'écuries formidables, d'écuries historiques telles que Mercedes, Ferrari et d'autres, hein, même Williams et d'autres écuries, McLaren, même si aujourd'hui ils sont pas au plus haut, mais c'est pas scandaleux de les voir plus haut que Red Bull, par exemple. Red Bull qui, dans l'histoire de la Formule 1, a une histoire plutôt récente, hein, depuis 10 ans, hein, seulement environ. Donc, il faut faire le dos rond, il faut savoir se montrer humble. Et voilà, au lieu de ça, il montre vraiment tout le contraire, de la prétention, un manque d'humilité. Et tout ça, ça se confirme. Ça se confirme pas qu'avec Renault, mais aussi avec la négociation qu'ils ont pour avoir le moteur en 2016. C'est juste horrible. Et là, j'en parle tout de suite. C'est-à-dire qu'en 2016, pour 2016, ils cherchent un nouveau moteur. Les négociations ont échoué avec Mercedes. Bon, ça, je vais pas revenir sur les détails, mais elles ont échoué en tout cas. Et ils ont aussi gueulé en disant que c'était pas possible, que c'était un manque de respect de motoriser Manor par rapport à Red Bull. Enfin bref, ils sont allés très loin, ils sont allés encore plus loin, je trouve, avec Ferrari surtout, puisque les relations, enfin les négociations s'avèrent plutôt compliquées, puisque les exigences de Red Bull sont vraiment dans la mentalité que j'ai décrite de. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas l'idée d'un sport. Ils ne comprennent vraiment pas l'idée d'un environnement compétitif, l'idée de, on va dire, du fait qu'ils ne peuvent pas se permettre de péter plus haut que leur cul comme ils le font, surtout envers Ferrari. Ça, à mon avis, ça passe vraiment pas envers les tifosi, envers Ferrari. Voilà, donc quelles sont les exigences particulières de Red Bull? En fait, Red Bull, ils veulent le même moteur d'usine que le team Ferrari, et ce, à n'importe quelle condition. N'importe quelle condition. Ils veulent ça dans le contrat, ils veulent absolument avoir le même moteur que le team Ferrari. Rien d'autre. Rien d'autre. Et en plus, voilà, en plus de cette exigence, ils la joignent avec des menaces de quitter la F1 à la fin de saison. Des menaces très malsaines et sérieuses en plus, hein. Ça, on peut les croire, ça c'est clair, ils n'arrêtent pas de le répéter, c'est sérieux, mais c'est très malsain de faire ce genre de menaces, et c'est des menaces répétées toutes les semaines de la part de Marco et de Mateschitz. C'est vraiment horrible. Je cite Helmut Marco. Il joue avec nous, mais nous ne voulons pas jouer. Notre considération de départ est de plus en plus alimentée. C'est du culot de nous proposer des moteurs 2015 quand en même temps Sauber et Haas auront des moteurs 2016. Bon, déjà, utiliser le mot culot, dire que Ferrari joue avec eux. Déjà, calmez-vous, hein, Red Bull. Red Bull a été motorisé par Ferrari juste pendant un an, et c'était il y a longtemps, durant leur deuxième saison, après avoir été motorisé par Cosworth. Là, après, ils ont été motorisés par Renault, pardon, pendant de nombreuses années, ont été des concurrents de Ferrari, n'ont pas de relation particulière avec le motoriste italien, et là ils viennent comme des princes en exigeant le meilleur parce que eux s'estiment être les meilleurs. C'est ça, c'est scandaleux, et en plus un manque de respect envers Sauber et Haas, ça n'a rien à voir. Sauber, Ils ont des relations avec Ferrari depuis maintenant plusieurs années. Souvenez-vous, depuis que Ferrari motorise Sauber, ben évidemment, les deux écuries sont en étroite relation quand même, relation de motoriste à client. Haas, c'est pareil, ils souhaitent entrer dans la F1 depuis un certain moment maintenant, et quand ils ont annoncé qu'il y avait un partenariat moteur avec Ferrari, évidemment, il y a des relations qui sont mises en place. Et Red Bull, ils arrivent sans qu'il y ait de relations, sans qu'il n'ait de partenariat privilégié avec Ferrari, et ils exigent tout, et en plus en dénigrant les autres partenaires moteurs, parce qu'ils s'estiment être supérieurs. Ça se passe pas comme ça en F1. Vous avez voulu jouer avec Renault, vous avez voulu abandonner Renault, maintenant, il faut un peu faire le dos rond et attendre vraiment de pouvoir montrer quelque chose, à montrer à Ferrari que vous méritez d'avoir le meilleur moteur, tout simplement, d'avoir un moteur similaire à celui de l'écurie italienne, ce qui s'avère compliqué, parce que quand même Ferrari, à mon avis, ils veulent pas non plus qu'une écurie motorisée par Ferrari les embête. Hein. Déjà, dans l'histoire de Ferrari, de les voir motoriser deux écuries clientes, c'est quand même assez fort. Et en plus, s'il y en a une troisième, ça, c'est quand même assez inhabituel dans l'histoire de Ferrari, hein, il me semble, hein, quand même. Et j'en veux pour preuve, hein, le dernier podcast qu'on avait fait avec Ghislain, là, sur Retro GP, on avait vu que Ferrari, ben, il m'autorisait, je crois, que eux, voire peut-être une autre écurie, mais je crois qu'il m'autorisait que. Donc bon, c'est dire. Donc voilà, et en plus, voilà, en plus de ça, Red Bull, à travers donc toujours Marco et Matej Szyc, entre autres, ils pensent à imposer le gel moteur pour la saison 2016, pour limiter le déficit de performance qu'ils pourraient avoir ben, par rapport, par exemple, s'ils ont un moteur de 2015, ben, avoir moins de déficit par rapport au moteur 2016 de Ferrari qui pourrait évoluer tout au long de la saison et là qui n'évoluerait pas évidemment avec le gel. Alors que l'année dernière, mais ce qui est ridicule dans leur attitude, c'est que l'année dernière, ils étaient limite sur le front, sur la ligne de front pour défendre l'inverse, pour demander tout simplement à ce qu'il y ait un dégel total des moteurs. Hein. C'est ça qui est fou quand même, hein. C'est ça qui est assez ridicule, ils ne pensent qu'à eux. Et ça va bien plus loin du seul fait que le groupe stratégique est assez mal fait de ce côté-là et incite les écuries à tout simplement ben, ne penser qu'à elles et à leurs propres intérêts. Ça, il y a ce côté-là, certes, mais Red Bull va encore plus loin parce que là, ils sont prêts à, comment dire... C'est pas une réflexion autour du sport, là, c'est vraiment une réflexion... Parce que même quand les écuries pensent un peu à leurs intérêts, elles pensent quand même à leur idée du sport, on va dire. Un petit peu. Un petit peu. Mais là, vraiment, Red Bull, c'est... On s'en fout du sport, on s'en fout de ce qu'on a pu penser avant. On s'en fout de ce qu'on a pu penser avant, de nos valeurs d'avant. Et pour notre propre intérêt, on peut demander le gel des moteurs. C'est d'un ridicule. C'est... Tout ça, c'est très malsain de la part de Red Bull. Ce n'est pas digne d'une grande écurie. Ça c'est clair, et vraiment ça, en termes d'image, c'est très mauvais hein, pour eux, hein, tout simplement, je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Pour qui ils se prennent? Pour qui ils se prennent, Marco et Matej Szyc? Ils ont cherché à être en difficulté tout seuls, en n'acceptant pas la défaite avec Renault, en n'attendant pas, tout simplement. Après, c'est normal, certes, d'avoir des exigences envers Renault, mais de les quitter comme ça, dans un tel irrespect de la part de... Enfin, envers Renault et ensuite envers comment ça s'appelle? Envers les autres motoristes, envers le sport, envers les autres écuries. C'est d'un tel irrespect, c'est vraiment dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant de la part de Red Bull et on n'aurait qu'une envie, c'est ben allez-y, prenez la porte, on vous retient pas, tout simplement. Le problème, c'est que. C'est que voilà, il y a un problème au niveau marketing. Eccleston, il est obligé d'essayer de calmer le jeu. C'est ça qui est triste, c'est qu'Eccleston est obligé d'essayer de calmer le jeu, de parler avec Red Bull. Pourquoi? Parce que Red Bull, c'est une grande marque et c'est une marque qu'on a envie d'avoir avec soi dans son sport. Red Bull est présent partout, dans à peu près tous les sports, même dans ce qu'on appelle l'e-sport, c'est-à-dire les compétitions de jeux vidéo. Dans plein de domaines, Red Bull est présent. Donc évidemment, que Red Bull soit présent en Formule 1, c'est quand même important pour Eccleston. Et en plus, il y a des contrats avec les circuits de F1. Il y a des contrats pour qu'il y ait un nombre minimal de participants. Et oui, parce que souvenez-vous, ces fameuses histoires de contrats, pour qu'il y ait minimum, je crois, 16 voitures sur la grille de départ, ce genre de choses. Il y en aura 16, hein, ça c'est sûr, même en enlevant Red Bull. Mais imaginons que Manor ait un problème, par exemple, ou que une autre écurie a un problème, ça pourrait peut-être être compliqué si deux écuries ont un problème. Donc voilà, ça, c'est quand même une grosse épine dans le pied d'Ecclestone, et je vous prie de croire qu'Ecclestone, il préférerait ne pas avoir cette épine dans le pied et dire bon ben cassez-vous, hein, parce que Ecclestone, il a pas sa langue dans sa poche non plus, mais bon, il défend les intérêts de la F1 malgré tout, hein. Faut quand même rappeler son travail. Après, au niveau des contrats, Red Bull aussi en a un. Red Bull a un contrat avec la Formule 1. Ah oui, donc, dans l'irrespect du sport, il faut ajouter ça. Red Bull, si Red Bull s'en va là, à l'issue de la saison 2015, Red Bull casse un contrat qu'elle a avec la F1. Parce que Red Bull a un contrat avec la F1 qui stipule que l'écurie autrichienne s'engage à être dans le sport jusqu'en 2020 au minimum. Au moins jusqu'en 2020. Ben donc, si Red Bull casse ce contrat, Red Bull devra payer en conséquence, et tant mieux, c'est mérité. Par contre, là où ça me plaît pas, c'est voilà, j'aimerais vraiment, enfin, c'est triste quand même, parce que Red Bull, il cherche à mettre le couteau sous la gorge à pas mal de monde là, sans qu'ils en aient, on va dire, la légitimité, et ils ont pas d'humilité, tout simplement, j'en ai vraiment marre. Ils font preuve d'un grand irrespect envers de grandes sociétés de la Formule 1, envers le sport en lui-même. Et voilà, ça montre vraiment que cette société ne comprend pas l'idée du sport, ne comprend pas l'idée de la Formule 1, l'idée de la compétition, l'idée de la défaite dans le sport, l'idée de toutes ces idées-là. Et en plus, parlons en interne, sans parler de l'externe, en interne, de menacer de quitter la F1, ça montre quoi? Ça montre que Red Bull s'en fiche de ses pilotes. S'en fiche de sa filière jeune qui actuellement compte quand même pas mal de pilotes qui essayent de percer. Red Bull s'en fout de ses ingénieurs également, évidemment, et des centaines d'employés qui sont aux usines de Milton Keynes et de Faenza. C'est vraiment dégoûtant. La vérité éclate en fait avec cette affaire. La vérité éclate, c'est que Red Bull pense juste à vendre des canettes, tout simplement. Alors après, vous allez me dire, oui, c'est normal, et je suis d'accord, c'est normal de penser au marketing de sa marque, et tout le monde fait ça, Mercedes le fait, on le voit bien avec AMG et tout, Ferrari le fait, McLaren le fait également avec ses voitures de sport, beaucoup d'écuries le font et pensent à leur marque, pensent à leurs sponsors principaux, c'est normal. Mais là, ça va au-delà de ça, là, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que Red Bull pense juste à ça. Pas au reste, pense juste à vendre ses canettes sans rien et se dit que s'ils ne sont pas dans le haut du tableau, dans le plus haut du tableau, eh bien ça leur coûte en termes d'image. Alors que à mon avis c'est quand même c'est de la parano tout simplement. Et surtout ben que devraient dire d'autres écuries dans ce cas hein? McLaren, que devraient dire McLaren, que devraient dire Force India, que devraient dire certains sponsors. Je crois que le sponsor de Force India, un gros sponsor, il y a Claro et Kingfisher, qu'est-ce qu'ils devraient dire? Les sponsors aussi, Telmex, ce genre de sponsors. Pas mal de sponsors, qu'est-ce qu'ils devraient dire? Flexbox, alors Flexbox, quand ils ont décidé de sponsoriser Manor en courte saison, alors qu'ils sont au fond du plateau, oh ben quelle connerie ils ont fait alors! Mais non, c'est pas ça l'idée. Red Bull n'a rien compris. Red Bull n'a rien compris. En étant F1, ils ont une visibilité, qu'ils soient devant ou pas. Ils ont moins de visibilité en étant dans milieu du plateau, on va dire, mais ils ont toujours une grande visibilité qui leur permet, voilà, de rester connus, tout simplement. Ça leur fait pas une mauvaise image d'être derrière. Par contre, de faire ce genre de déclaration, ça peut faire une mauvaise image, ça c'est clair. Ça c'est clair. Voilà, donc tout ça c'est bien triste. C'est une attitude vile, perfide, antisportive, prétentieuse, tout ce que vous voulez, tous les qualificatifs négatifs, vous pouvez les utiliser, même ceux qui sont un peu vulgaires, je pense, là je les utilise pas trop parce que ça ne vaut pas le coup, il y a d'autres qualificatifs moins vulgaires pour les définir, mais chez vous, vous pouvez utiliser ces mots un peu plus vulgaires. Bref, en tout cas, j'ai ma réponse à l'interrogation que je me posais il y a quelque temps. Je ne sais pas si je me l'étais posée sur PodCloud ou si c'était sur YouTube à l'époque, voire même avant sur Show Prime. Vous allez me dire hein, si jamais ça vous dit quelque chose, mais un moment dans un podcast ou dans une vidéo, j'avais dit, est-ce que Red Bull peut être un top team historique? C'était une question que je posais, une question ouverte, donc je n'avais pas la réponse. Parce que avec les nombreux titres, avec le fait qu'ils s'installent en haut, qu'ils ont quand même des très bons ingénieurs, une très bonne organisation, Je m'étais dit, des très bons pilotes, une filière jeune en plus qu'ils mettent en place, donc qui prouvaient qu'ils semblaient vouloir vraiment s'installer en F1. Je me disais, on peut se poser la question, est-ce qu'à terme, est-ce que dans 10 ans, on pourra dire Red Bull est un top team historique avec les titres qu'ils ont et le palmarès? La réponse est non, tout simplement. On l'a aujourd'hui, la réponse. Quoi qu'il arrive, même s'il reste en F1, je pense que la réponse est non. En aucune façon, ils ne peuvent être un top team historique avec cette attitude et avec cette façon de penser, puisqu'ils peuvent quitter le sport du jour au lendemain. Et ça, c'était justement la réserve que j'avais émise à l'époque où je me posais la question. J'avais dit, et je vous veux pour témoin si jamais je l'avais dit sur PodCloud, c'est que j'avais dit aussi ça. C'est-à-dire que voilà, Red Bull n'est pas un constructeur automobile. Et donc, est-ce qu'ils ont autant l'intérêt que d'autres à être en F1? Est-ce qu'ils ont cette passion? Eh ben non, ils ont la passion des canettes, ça c'est sûr, mais ils n'ont pas la passion de l'automobile tout simplement et de la course. Ils ont la passion de tout simplement du marketing et c'est bien triste. Ils n'ont pas le reste. Alors que les autres ont le marketing, mais ils ont le reste également. Ils ont cette passion du sport, cet attachement à la Formule 1 que Red Bull n'a pas et c'est juste dégoûtant de voir ça en Formule 1, quoi. Donc voilà, messieurs Dietrich Mateschitz et Helmut Marko, bon vent. Si vous restez en F1, eh ben tant mieux, pas pour vous, mais tant mieux pour tous les employés de Red Bull. Et si jamais il y a des employés de Red Bull qui écoutent ce podcast, eh bien je vous soutiens vraiment. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour éventuellement une petite interview. Mais voilà, je vous soutiens vraiment à 100%, employé de Red Bull et de Toro Rosso, du coup, à Faenza. Ça, c'est logique. Donc, ben, bon courage. Et si jamais Red Bull ne reste pas et Toro Rosso non plus, eh bien, bon vent, on ne regrettera pas, en tout cas, ses dirigeants. C'est triste pour tout le reste, hein. Ils mettent vraiment le couteau sous la gorge à pas mal du monde. Mais voilà, c'est triste. C'est vraiment une attitude abjecte qu'ils ont. Et c'était tout pour moi, tout simplement. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, @F1Analyse ou sur la page Facebook d'Analyse F1 sur PodCloud. Voilà, je suis à votre écoute. Et ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord également. Voilà, bon. On se donne rendez-vous au prochain podcast dans lequel je vais sûrement parler de Romain Grosjean et de sa décision de quitter Lotus pour rejoindre As F1 Team. À bientôt et vivons notre passion. Ciao.